RCF.
C'est Grand Angle, bonjour. Enfants agressés, comment prévenir? C'est le thème de l'émission aujourd'hui, en partenariat avec Astrapi, les publications de Bayard Jeunesse et le quotidien La Croix. La plupart des gens veulent du bien aux enfants. Malheureusement, certaines personnes ne se comportent pas comme il faut. Comment prévenir les enfants? Leur expliquer qu'ils peuvent être victimes de violences et d'agressions sexuelles? Ne rien dire, c'est abandonner l'enfant face à l'incompréhensible, à l'indicible. Informer et accompagner les enfants, oui, mais comment? Eh bien, on va en parler avec mes invités. Gwenaëlle Boulet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rédactrice en chef d'Astrapi et auteur de plusieurs histoires de livres pour enfants. Vous êtes aussi l'une des responsables d'un petit livret paru il y a quelques jours, Stop aux violences sexuelles faites aux enfants, diffusé par les titres de Bayard Jeunesse, mais aussi à quelques milliers d'exemplaires, centaines de milliers d'exemplaires par les associations et établissements scolaires qui vous accompagnent et qui sont partenaires. Et puis un document qui est d'ailleurs téléchargeable gratuitement, on en parlera tout à l'heure. Emmanuel Lucas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous aussi journaliste pour le quotidien La Croix, mais les titres de Bayard sont engagés dans cette lutte contre les violences sexuelles. Vous travaillez au service parents-enfants du quotidien. Un dossier apparaîtra demain dans votre journal. Vous publiez un émouvant reportage sous le titre « Pédophilie, les familles face au choc ». Marianne Sanchez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue à l'unité médico-judiciaire des hôpitaux de Paris, secrétaire général de l'association Centre de victimologie pour mineurs. C'est toujours vrai?
Oui, c'est toujours vrai.
Vous recevez aussi bien des enfants victimes que des parents ou des proches de ces enfants. Et vous allez nous parler donc de ces rencontres et de l'accompagnement que vous mettez en place. Enfants agressés, comment prévenir? C'est le thème du jour de Grand Angle. C'est tout de suite sur RCF.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Gwenaëlle Boulet, un petit livret mais tiré à plus de 400 000 exemplaires, c'est impressionnant. C'est quoi ce petit livret? C'est pourquoi? C'est pour qui?
Alors c'est un petit livret qui est destiné aux enfants, soit à lire seul par les enfants, soit accompagné avec des parents ou des adultes de confiance. Bayard Jeunesse est engagé depuis longtemps, puisqu'en 2002, on avait déjà fait un petit livret qui parlait des violences sexuelles faites aux enfants. Et voilà, on se rend compte aujourd'hui que ça reste un sujet qui est extrêmement tabou, qui est très compliqué à aborder en famille. C'est-à-dire qu'on va pas rentrer un jour du boulot et puis dire « Tiens, je vais parler des violences sexuelles à mes enfants ». C'est très compliqué de l'aborder. Et du coup, nous, ce qu'on a décidé de faire, effectivement, avec Bayard Jeunesse, c'est de proposer un petit livret destiné aux enfants pour aborder la question.
C'est la tranche 7-13 ans.
Ouais, 7-11, oui, 7-11, 7-12, voilà. J'ai envie de dire, ne soyons pas trop précis au sens où le but, c'est vraiment d'amorcer la discussion, d'aller proposer cette discussion aux enfants et de voir un petit peu où ça va, quoi.
Une discussion qui est peut-être bon de faire en famille, pas laisser l'enfant lui dire tiens, il y a un petit livret pour toi.
Évidemment, après on a fait un choix qui est assez osé effectivement, on a fait le choix de mettre donc les 400 000 exemplaires, d'envoyer les 400 000 exemplaires du livret aux abonnés donc d'Astrapi, J'aime lire Max et Image Doc qui sont les titres de la tranche d'âge 7-11 ans, et on a fait le choix effectivement de l'envoyer directement aux enfants en se disant aussi bah voilà, il y a peut-être des enfants à qui c'est arrivé et qui n'auront peut-être pas l'occasion de pouvoir en parler en famille. Et donc, on avait envie que ça aille quand même directement dans leurs mains. Évidemment, la grande majorité des cas va être une lecture en famille. On a déjà reçu beaucoup de mails de parents qui nous remercient de cette démarche. C'est vrai que quand on lance une démarche comme ça, on est toujours un petit peu inquiet. En tout cas, à la fois, on est très convaincus, nous. Et en même temps, on a toujours une petite inquiétude de la réception. Mais vraiment, là, on est très contents parce que les parents nous disent merci. On n'arrivait pas
finalement
à aborder ce sujet.
Vous aidez aussi les parents?
Bien sûr qu'on aide les parents. On donne des mots. On a des mots. Moi, je suis parent. Je l'ai écrit. Et pourtant, j'étais très contente d'avoir ce support pour l'aborder avec mes enfants. Un sujet que j'avais pas forcément abordé comme ça jusqu'à maintenant.
C'est sûr, parce que, par exemple, tout au long des pages, un petit dico, des mots pas rigolos comme pédophilie, contrôle parental, mineur, attouchement et autres.
Alors,
pour faire comprendre. Mais il y a aussi un aspect, je vais pas dire ludique, mais une présentation.
Oui. Douce.
Douce et illustrée.
Oui, c'est vrai qu'on a fait, on a vraiment pris le parti de partir sur trois, il y a trois petites histoires qui vont du plus lointain, c'est Hugo s'est fait piéger sur internet, il y en a une seconde, c'est avec un entraîneur de rugby, donc domaine sportif avec des accompagnateurs, des éducateurs, et puis une troisième qui est vraiment où on touche à la question de l'inceste avec un oncle pas si gentil, mais dit comme ça, on peut être effrayé en tant que parent, on se dit mince, comment je vais aborder ça avec mes enfants, mais c'est vrai qu'on a vraiment tout fait, que ce soit dans la forme avec l'illustration choisie, le moment où on s'arrête dans le scénario présenté, les conseils qu'on va donner après pour quelle réaction avoir si on se retrouve dans une situation pareille ou si ça se présentait, qui font, je pense vraiment, en tout cas, vu les retours qu'on a des parents, qui sont très respectueuses des publics. Sachant qu'on avait deux objectifs. Le premier, c'est de prévenir. La plupart des enfants qui vont le recevoir n'ont pas été confrontés à une situation comme celle-ci. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans la prévention. Parfois, en tant que parent, on a tendance à se dire, on a envie de préserver l'enfance et de se dire, on va pas leur en parler parce que c'est trop dur et donc je vais préserver. Non, c'est exactement l'inverse. Préserver l'enfance, c'est leur en parler, c'est leur donner les armes pour pouvoir faire face si jamais ça se présentait. Donc prévenir, c'est le gros. Et puis la deuxième, c'est libérer la parole. On va peut-être rencontrer, ce livret va peut-être rencontrer des enfants qui finalement ont vécu une situation qui peut être accidentelle, ponctuelle ou répétée. Et puis, qui savent pas quoi faire de cette situation, qu'on n'en a pas parlé, parce qu'ils savent pas si c'est grave, parce qu'ils savent pas si, ce qu'il faut en faire. Et puis, ben, peut-être que ça va libérer la parole.
Vous passez par les enfants, vous vous adressez aux enfants, mais finalement, c'est de la responsabilité de tous.
C'est exactement ce qu'on dit, oui, aux parents à l'arrière du livret. C'est notre responsabilité tous de protéger les enfants. Et en parler, c'est les protéger. Ça ne veut pas dire que ça fera tout le travail. Je crois que mes collègues en parleront, ceux qui sont confrontés à ça au quotidien. En revanche, s'il n'y a pas de prévention, ce qui est sûr, c'est que les enfants ne trouveront jamais les mots pour le dire et que face à une situation, ils ne sauront pas analyser ce qui se passe. Donc on essaye en tout cas de leur donner
quelques
clés. Petites clés qui fait qu'ils vont reconnaître une situation qui ne serait pas normale.
C'est d'autant plus important que c'est à la fin du livret. Hein. Pourquoi en parler chaque année 20 000 mineurs portent plainte pour des violences sexuelles?
Alors sur les chiffres, moi je vais passer la parole parce que c'est vrai qu'il y a tellement de chiffres différents.
Emmanuel ouais, Lucas. Comment on peut estimer ce fléau? Parce que c'est un fléau.
C'est un fléau et les 20 000 plaintes constituent vraiment la toute petite partie
de ce qui est visible.
Ben oui, parce qu'en fait, un enfant seul ne va pas aller dans un commissariat. Donc ça, c'est déjà uniquement la toute petite fraction d'enfants dont les parents ont eu conscience qu'il y a eu un problème à un moment et qui en plus
et qui ont fait une démarche
font la démarche. Donc il est malheureusement il y a un chiffre qui circule et qui a quand même été souvent repris de 3 millions environ 3 millions de personnes victimes en France d'actes à des degrés divers, hein, pas forcément quand même jusqu'au viol, mais à des degrés divers des victimes de pédophilie en France.
Alors dans votre article à paraître demain hein, dans La Croix, je le rappelle, dans le cahier Enfants-Parents, vous abordez la question des parents, parce que ben, il faut le dire aussi, c'est dans les statistiques, 80% des violences sexuelles faites au moins de 10 ans sont commises par des proches. Souvent dans le cadre familial.
Mais c'est vrai que souvent on a un peu cette image d'Épinal du loup solitaire, de l'inconnu dans le parking, etc. Et en fait, pas du tout. Pour les enfants, en tout cas, dans l'immense majorité des cas, l'agresseur est parfaitement connu et même quelqu'un d'aimé. En fait, de l'enfant. C'est quelqu'un qui a cette capacité à se faire très bien intégrer dans la famille, qui arrive à mettre en place des stratégies pour que ces actes ne soient absolument pas concevables dans l'esprit de l'entourage. Et donc l'enfant est d'autant plus pour lui c'est d'autant plus difficile de comprendre que c'est pas bien et qu'il a le droit de dire que c'est pas bien, que ça lui est arrivé et qu'il faut qu'on le défende en fait.
D'autant plus, et là aussi on peut voir dans le petit livret à travers la bande dessinée, c'est que finalement il y a une sorte de présentation toujours très très ambivalente quoi, de l'agresseur.
Le silence,
le secret partagé.
C'est un secret entre nous. Et puis, tu vois, je t'aime bien, je te fais des cadeaux. Il y a un discours très, très ambivalent. On parle, mais ça, l'experte en psychologie
Marianne Sanchez
le dira mieux que moi. Mais on parle parfois de bain incestuel, de climat incestuel dans une famille, par exemple. Rien n'est dit officiellement, mais tout le monde sait vaguement, mais en même temps, tout ça est caché sous beaucoup d'attention, d'apparence. Donc, c'est extrêmement difficile pour l'enfant de savoir nommer et dire ben là ça c'est pas normal et j'ai le droit de pas aimer, c'est normal que j'aime pas et c'est normal que je vais y dire
que
non,
que je dise stop et qu'il y ait quelqu'un qui me soutienne, parce que on va y revenir, mais dans votre article vous avez rencontré aussi des mamans qui expliquent un peu aussi comment ça se passe dans la famille et comment on a du mal à croire que c'est possible.
Ouais, tout à fait, il y a une force de sidération, je pense, les gens ne peuvent pas imaginer ça. déjà dans l'absolu, mais alors quand c'est leurs propres enfants, encore moins, d'autant plus que donc ces personnes à penchant pédophile savent se faire aimer. Donc souvent, on perd au passage quelqu'un qu'on aime bien. Donc c'est la parole de l'enfant contre quelqu'un dans qui, a priori, on a vraiment confiance.
Il y aura forcément
donc c'est très compliqué.
Un éclatement. On va en parler. Marianne Sanchez, vous êtes donc psychologue à l'unité médico-judiciaire des hôpitaux de Paris, à l'Hôtel Dieu. Vous recevez des victimes,
oui.
Surtout. Et alors, comment ça se passe? Comment elles arrivent jusqu'à vous?
Alors, moi, je reçois essentiellement des victimes adultes qui ont pu être victimes récemment, mais dans l'enfance aussi. Et je reçois beaucoup les parents d'enfants victimes. Et je travaille de façon très étroite avec ma collègue Mélanie Dupont, qui est présidente de l'association que je représente aujourd'hui.
Dont on trouve
et qui,
l'interview dans La Croix demain.
Exactement, dont vous verrez l'interview dans La Croix demain. Et elle travaille avec les enfants. Et moi, je m'occupe des parents. On privilégie une prise en charge familiale en cas de violence sexuelle faite aux enfants, parce que c'est très souvent un traumatisme qui dépasse le traumatisme de l'enfant, en fait, hein, qui est aussi un traumatisme parental et qui est aussi souvent un traumatisme familial. On disait tout à l'heure 80% des enfants connaissent l'auteur, et dans ces 80%, à peu près la moitié, car j'ai en tête 43%, c'est un chiffre qui revient aussi, c'est carrément dans la famille.
Dans la famille.
C'est
même.
Parce qu'un auteur
le
connu,
père,
par exemple,
frère,
dans le petit livret, l'éducateur sportif, c'est quelqu'un de connu de l'enfant, ça rentre dans les 80%. Mais dans les 43%, et ça c'est très souvent, c'est grand-père, père, oncle, beau-père, cousin, frère.
Demi-frère,
tout ce qui est, enfin voilà, tout ce qui est intra-familial.
Comment ils arrivent jusqu'à vous? Parce que c'est
oui,
déjà une sacrée
coup,
démarche.
Je réponds pas à votre question.
Non, si, c'était intéressant.
Alors,
nous,
nous, à l'unité médico-judiciaire, on reçoit cette petite frange qui était évoquée à l'instant, c'est-à-dire qu'on reçoit uniquement cette petite proportion qui a pu porter plainte, qui implique.
Qui a pris conscience du problème.
Qui a pris conscience. Et pour porter plainte, il y a une série de facteurs favorables, c'est-à-dire que l'enfant a identifié, un, deux, il a parlé. Parce qu'il y a des enfants qui n'identifient pas, des enfants qui identifient mais qui ne parlent pas. Et trois, il a été entendu par ses parents. Et quatre, les parents ont décidé de mettre du tiers là-dedans en portant plainte et en se référant à une loi externe. Parce qu'il y a aussi des parents qui décident de gérer ça hors circuit. Voilà, ce qui est très ce qui est défavorable quand même, parce que les enfants les interrogent plus tard. Moi, j'ai beaucoup d'adultes qui me disent « Mais pourquoi rien n'a été fait ? Pourquoi ?» On
sentiment
m'a pas,
d'abandon.
Sentiment d'abandon, et que finalement, le fait de pas porter plainte peut être difficile après en termes de reconstruction. C'est comme si on avait entendu mais sans entendre, ou qu'on avait estimé que c'était pas assez grave pour être signalé à la justice. Les plaintes aboutissent pas toujours en termes judiciaires, voilà. Mais par contre, au plan symbolique et psychologiquement pour l'enfant, et même pour la reconstruction familiale, c'est assez important. Mais après, comme souvent ça se passe dans la famille, c'est difficile de porter plainte contre, je pense à des mamans, son propre père, son frère, des membres de la famille, c'est encore plus compliqué. Donc on reçoit cette population-là, ils ont porté plainte, ils sont allés au commissariat, et on nous les envoie en examen à l'hôpital. Et nous, après, avec Mélanie, on s'occupe de leur thérapie.
Parce qu'il est vraiment important qu'il y ait une prise en charge.
C'est déterminant. Vraiment.
On peut pas se dire, il est enfant, ça va passer, le temps n'y fait rien.
Alors, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que plus ils sont jeunes et plus on pourrait croire que ça ne les atteint pas, plus ils sont atteints profondément dans leur structuration profonde. C'est-à-dire, plus ils peuvent être complètement influencés par le mécanisme pervers, en fait. Un enfant plus grand, par exemple, je sais pas, 7, 8, 9 ans, à partir du fameux âge raisonnable, là, de 6, 7 ans, alors, je dis pas que c'est pas grave, ça l'est bien sûr, hein, toujours autant, hein, vraiment, hein, j'insiste. Par contre, il peut y avoir, enfin, la personnalité est déjà un peu plus armée.
Il peut comprendre ce qui est bien, pas bien.
Encore une fois, c'est très difficile de généraliser, mais normalement, il y a un petit peu plus de repères. Un enfant tout petit qui est vraiment, par exemple, victimisé à répétition par un membre de la famille, là, je vous donne une situation quand même plutôt haute en termes de gravité, il peut complètement intégrer, mais avoir beaucoup d'ambivalence, beaucoup de troubles à l'âge adulte, et beaucoup cette traumatisation de pas avoir révélé pendant longtemps, c'est des émotions qui sont très compliquées après à gérer, ça génère beaucoup de honte.
Emmanuel Lucas.
C'est vrai que souvent les victimes, ce qui est assez marquant, c'est qu'elles disent qu'elles se sont enfermées dans une espèce de bulle de honte. Le pédophile, il arrive très bien à inverser les rôles, et en fait c'est l'enfant qui se sent coupable. Il se sent coupable parce qu'il s'enfonce dans un silence faute d'avoir les mots. Comme il comprend pas ce qui s'est passé vraiment, ben il dit pas. Ou alors, il va dire de façon tellement détournée que personne ne va vraiment comprendre, ou qu'il n'y a personne pour entendre aussi. Et du coup, après, il va s'en vouloir énormément. Et plus ça va aller, moins il va en parler. Et plus il va s'enferrer dans son silence. Et cette espèce de déni, là, de généraliser, il va énormément culpabiliser d'avoir contribué à ce déni. Alors que le pauvre, il n'y peut rien. Il n'y peut absolument rien.
Il reste victime,
rien.
Et c'est ça qu'il faut faire passer quand même comme message. Il
reste la victime. Ah, il reste la victime. Il n'a pas d'autre choix que de s'enferrer dans ce silence. Il n'a pas d'autre choix. Mais en grandissant, il ne supporte pas cette idée d'avoir, même à son corps défendant, et c'est le cas de dire, pu concourir à ce qui s'est passé.
Mmh. Gwenaëlle Boulay, c'est tout le rapport à l'adulte, à la confiance qu'on fait à l'adulte qui est mise en cause dans ces situations dramatiques. Mmh.
Moi, j'ai été très troublée quand on a vu le documentaire qui sera diffusé sur France 2, et puis quand on a vu des victimes. J'ai été très, très marquée par cette culpabilité portée par l'adulte, des adultes qui ont 40 ans, 50 ans pour certains, et qui portent cette culpabilité de pas avoir su dire, de pas avoir su dire non, etc. Et on a eu un grand débat quand on a présenté le projet du livret à toutes les associations. Enfin, on a eu un grand débat, on sentait qu'on était sur une ligne de crête entre, le message à faire passer, il est vraiment qu'il n'y a qu'une solution, c'est d'en parler. La seule solution de sortir d'un cercle, de sortir de la manipulation, de sortir de tout ça, c'est d'en parler. C'est le seul chemin. Et en même temps, nous, de pas être dans la culpabilisation des enfants qui n'auraient pas réussi à en parler. Et c'était très difficile en faisant ce livret, et toujours avec des lignes très serrées, peu de texte, etc. Parce que pour être lu, il faut, à part des enfants, il faut pas toujours beaucoup de texte. Mais on était sur cette ligne de crête entre, bon, qu'est-ce qui fait qu'on va pas culpabiliser ceux qui n'auront pas réussi à le dire, ou en tout cas pas sur le moment. Donc on a souvent dit, il faut le dire, mais si t'arrives pas à dire sur le moment, il sera jamais trop tard pour le dire. Mais, et puis aussi, si on ne croit pas, et si on ne croit pas, qu'est-ce qu'on fait ? Dire, bah, il faut continuer à aller voir d'autres adultes. Donc nous, on était dans cet encouragement-là. Et voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'est ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, cette idée que j'ai eu l'impression que les victimes sont quand même, ils ont un chemin de rémission, ils ont un travail, mais ils portent quand même ça très lourdement une bonne partie de leur vie. Moi, oui. Ça m'a beaucoup marqué.
Et on ne peut pas ne pas penser aussi à la parole libérée. Hein, c'est le titre de l'association qui a dénoncé les actes de certains prêtres dans l'Église. Vous les avez interrogés. Vous avez interrogé notamment un des fondateurs, Emmanuel Lucas. Là, on voit que ce sont effectivement des personnes adultes, enfin oui, vraiment 40, 50 ans, qui ont donc porté ça tout le temps.
Oui, c'est ça. Oui. Ils ont grandi avec cette blessure. Et après, c'est très compliqué de grandir sur une faille, en fait. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais très souvent, c'est pas des victimes, idéales dans le sens où c'est des victimes qui vont avoir tellement de troubles lourds, par exemple de comportements très déviants ou de très des addictions, qui vont avoir des rapports très compliqués avec les gens. Enfin, c'est terrible parce que c'est des gens qui s'enferment dans la détestation d'eux-mêmes, me semble-t-il, et qui du coup deviennent des gens parfois pas très que l'entourage n'a pas envie de soutenir. C'est terrifiant.
Marianne Sanchez, quels sont effectivement, oui, les dégâts que ça cause? Ils peuvent être très variables, comme l'explique Emmanuel Lucas.
Ils sont extrêmement variables en fonction de ce qui s'est passé, en fonction de à quel point l'auteur est proche. Plus l'auteur est connu, mais de loin, moins. Encore une fois, c'est des généralités. Parce qu'il y a moins d'ambivalence chez l'enfant. C'est quelqu'un qui l'aime bien, pas quelqu'un qui l'aime. En tout cas, au sens peut-être plus familial du terme. Donc, moins il y a d'ambivalence, moins il y a de contradictions, plus il y a de chances que ça se passe bien par la suite s'il y a une prise en charge adaptée. Souvent, quand ça se passe, on parle des agressions extra-familiales, donc qui ont lieu à l'extérieur de la famille, que l'auteur soit connu ou pas. Plus les enfants révèlent vite. Ça, on le sait, par exemple. Ils parlent plus vite quand c'est quelqu'un qui est pas de la famille. Quand c'est quelqu'un qui est de la famille, déjà, ils mettent plus de temps à parler, donc il y a plus de chances qu'ils soient à nouveau victimisés. Ça fait des conséquences plus graves. Et ces conséquences, elles sont très variables en fonction des événements. Heureusement, et tant mieux, et nous on voit ça tous les jours, des gens qui s'améliorent, des familles qui se remettent, des enfants qui avancent. La santé des parents, leur capacité à entendre ce que l'enfant a dit et à mettre en place une prise en charge adaptée aussi bien au niveau judiciaire qu'au niveau psychologique est déterminante. Ça, on le voit en permanence en fait. Les parents eux-mêmes se déculpabilisent en mettant en place ce qu'il faut après. Ils vont mieux, les parents vont mieux, l'enfant se sent pris en compte, il va mieux, et les deux états de santé psychologique évoluent positivement ensemble. Et l'enfant intègre qu'il est tombé sur la mauvaise personne au mauvais moment, que on peut lui travailler en thérapie cette fameuse culpabilité, ou déjà dès le départ on attrape ça en expliquant bien que ça n'est pas de la faute de l'enfant, que ça ne peut jamais être de la faute de l'enfant, même s'il a pas dit non, même s'il a pas résisté, même s'il a pas fui. Par rapport à une figure d'autorité, on oublie à quel point quand on est enfant, on vit dans un monde d'obéissance.
On leur demande d'obéir tout le temps, en permanence.
Et là, on leur dit d'apprendre à désobéir. Et heureusement, il faut qu'ils désobéissent sur certaines choses, sauf qu'ils sont valorisés, les enfants qui obéissent. Ils sont récompensés, les enfants qui obéissent. D'ailleurs, certains pédophiles récompensent les enfants avec des compliments, cadeaux ou autres.
Est-ce qu'il y a des symptômes qui permettent de sentir qu'un enfant va pas bien? C'est difficile ce que je vous demande.
Alors, de sentir qu'un enfant va pas bien, oui. De savoir qu'un enfant a été victime de violences sexuelles, non. Il y a des comportements plus spécifiques que d'autres, notamment certains comportements, des fois, de stimulation sexuelle qu'on peut trouver chez les enfants. Mais même ça, c'est pas sûr à 100%. Enfin, c'est pas une certitude qu'il y ait des violences sexuelles qui aient lieu. Par contre, ce qu'il faut faire, en fait, face à un état de santé général de l'enfant, s'il a l'air préoccupé, c'est lui poser des questions, lui demander comment il va en ce moment, est-ce qu'il y a des choses qui lui font du mal, ou lui poser la question, est-ce qu'on t'a fait du mal, si vraiment il y a des doutes. Et après, ne pas rester seul avec ça, bien sûr.
Avant que les enfants arrivent chez vous, enfin, arrivent dans le centre, ils passent aussi par le commissariat, la gendarmerie. Oui. Là aussi, il y a maintenant une écoute spécifique de ces enfants?
Oui. À la brigade des mineurs, il y a, surtout pour les violences sexuelles, il y a tout un protocole particulier pour entendre ces enfants-là, avec une façon de poser les questions. Ce sont des entretiens, d'ailleurs, qui la plupart du temps sont filmés. C'est une équipe qui est spécialisée pour entendre ces enfants-là. Et pareil, lors de l'examen chez nous, il y a tout un protocole qui est censé être le plus adapté possible. Mais on marche toujours sur des œufs, on est toujours au cas par cas.
Pour permettre, Gwenaëlle Boulay, à libérer cette parole dont on parle, pour que l'enfant puisse prendre la parole, il lui faut quand même du courage, non?
Ah oui, à cet enfant. Je pense qu'il faut beaucoup de courage. Après, moi, j'ai envie aussi de parler de toute cette prévention dont on parle avant.
On va en parler.
On parle avant. Oui, évidemment. Je suis pas dans ce traitement au quotidien des enfants, mais évidemment, on le sent dans tous les témoignages qu'on a pu avoir. Il y a une notion de courage, mais je sais pas si j'irais sur ce mot-là parce que, à défaut, ça veut dire que ceux qui l'ont pas fait sont pas courageux, et du coup, ça me gêne un peu d'en parler comme ça. Mais je pense qu'il faut surtout avoir
l'inverse. Alors, le bon moment pour trouver la bonne personne qui va écouter.
C'est ça. Et je pense, et ça fera peut-être la transition, mais je pense qu'effectivement, si avant ça, on a eu de la prévention, c'est-à-dire que si on a ouvert la question à la maison, si on dit tu sais que si un jour il y a quelque chose qui t'arrive, on peut en parler, tu sais, peut-être que la parole sera d'autant plus facile, elle pourra plus se faire que si on n'en a jamais parlé.
Et bien la prévention, on en parle après la musique.
Un beau jour ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec il a touché ma joue, dans ma main il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant.
L'aigle noir, Barbara, qui chantait en 1970, et quand on sait que, eh bien, à l'origine, il y a eu ce problème dont nous parlons aujourd'hui, une agression commise par son père. On comprend aussi toute la profondeur de cette chanson, Enfant agressé, comment prévenir. On en parle avec Gwenaëlle Boulet, Emmanuel Lucas et Marianne Sanchez.
Grand angle, Christophe Hénin.
Gwenaëlle Boulet, vous insistez dans ce livret et vous voulez nous le redire aussi, comment il faut mettre en place, c'est pas des outils mais simplement des informations qui permettent de peut-être de prévenir justement, comme on le disait dans le titre de cette émission, prévenir les enfants, leur faire connaître que il y a des adultes, ce que je disais aussi, les adultes sont gentils mais pas tous.
Oui, et c'est ce qu'on disait avec Marianne Sanchez, c'est que effectivement c'est pas quelque chose qui peut prévenir toute, un bouclier anti, comment on pourrait dire, à 100%, quoi, qui marche 100%. Mais il y a quand même des choses à disposer. Voilà. Mais tout comme, j'ai envie de dire, il y a plein de domaines dans lesquels on le fait en tant que parents. On laisse pas traverser la rue sans leur donner un certain nombre de règles. Petit à petit, on se dit qu'on les laisse pas aller sur Internet n'importe comment, sans un certain nombre de règles. Et ben, là, c'est un petit peu pareil. Il y a des choses, peut-être, qui peuvent éveiller les consciences. Et par exemple, je disais, pour moi, il y a un peu deux grands pieds. Il y a la question du corps, de l'intimité, dont on peut se dire que très tôt, dès le plus jeune âge, on peut commencer à en parler. C'est-à-dire que effectivement, un enfant, un bébé, une fois qu'il a pu la couche, qu'on a pu à l'essuyer, etc. Quelque part, on n'a plus vraiment d'occasion et de raison de lui toucher les parties intimes. Et il peut prendre sa douche en se savonnant tout seul, et on peut lui expliquer, pas tous les jours, on va pas en faire un cheval de bataille quotidien, mais de temps en temps, de venir sur la question de l'intimité et que ton zizi, ta zézette, tu sais, c'est à toi. Il y a personne qui peut te demander de la toucher, etc. On peut être sur cette question du corps, de l'intimité. Et puis, pour moi, il y a un autre pilier qui est assez fort, qui est la question du secret. Et moi, en tant que parent, par exemple, je sais que quand j'avais entendu cette idée que si un adulte, si une grande personne, si quelqu'un te dit de garder secret quelque chose que vous avez fait ensemble, qui s'est fait ensemble, globalement, c'est louche. Alors dans le livret on dit,
méfiez-vous des secrets.
Voilà. Dans le livret on dit il y a des bons secrets.
Ça cache quelque chose.
Et voilà, préparer un cadeau pour la fête des mamans, c'est un secret qui nous fait plaisir. On sent qu'on est content. Voilà, il y a des bons secrets entre guillemets. Mais il y a des secrets qui nous rendent pas très à l'aise. On sent bien qu'on est un petit peu tiraillé. On nous a demandé de garder secret. Ça par exemple, on leur dit dans le livret, c'est un peu une sonnette d'alarme. Parle-en à tes parents, même si tu penses que c'est une bêtise. On dit par exemple, il vaut mieux se faire gronder pour une petite bêtise que de tomber dans un piège d'un prédateur sur Internet ou autre. Donc cette question du secret, cette question du corps, de l'intimité, pour moi, elle est assez importante. Et puis, une troisième petite idée, c'est de se dire qu'on a vu que beaucoup d'enfants, quand ça se passe, entre autres dans le cadre familial ou proche, ont cette idée, cette peur de casser la famille, de faire du mal à leur famille, et peut-être d'arriver à dire que ce qui casse la famille, c'est pas la parole, c'est le silence. C'est ce silence qui casse la famille et qui brise la famille. Il y a peut-être des choses comme ça qu'il faut arriver à dire.
La réception du livret, vous avez déjà eu des retours, notamment des parents, parce qu'en général, c'est plutôt les parents qui vous envoient des mails que les enfants.
Ouais.
En même temps, ça souligne aussi cette confiance en adulte qu'il faut parfois mesurer. Est-ce que ça risque pas aussi de provoquer un petit trouble dans les familles, de se dire, attention, les adultes sont pas tous gentil.
Oui. Après, ce qui est intéressant, c'est que
le jeu envoie la chandelle, peut-être.
Oui, et puis pour l'avoir pratiqué là avec des enfants et en particulier chez moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans l'expression des enfants, et ça va au-delà des violences sexuelles, c'est cette question que le mal ne se voit pas sur le visage. En gros, les petits, ils ont tous été élevés dans les dessins animés, les icontes, les contes pour enfants. Il y a des bons, il y a des méchants. Et globalement, le méchant, chez Disney ou autre, mais le méchant, il se voit bien quand même. Quand il arrive, je ne sais pas si vous avez vu le film La Cro-Blanc, là, le méchant, il arrive, c'est bon, on a compris que c'était lui le méchant. Donc, ils sont construits dans cette idée que le bon et le méchant se voient. Là, et on accompagne ça beaucoup dans le livret, l'idée, c'est que, eh ben, ça se voit pas, et il a même l'air gentil. Et là, c'est vrai qu'on pose quelque chose de l'ordre de la confiance, qui est très compliqué pour l'enfant, de se dire tout à coup, le mal ne se voit pas sur village, il a même peut-être l'air gentil. Et je pense qu'on peut accompagner dans la discussion avec les enfants, là, c'est de dire, toi, moi, c'est le discours un peu que j'ai apporté aussi autour de moi, c'est de dire, mais tu sais, c'est pas forcément des méchants. C'est-à-dire que la question des violences sexuelles, c'est que ce sont des gens, en particulier dans l'entourage, là on a fait un tonton pas si gentil, qui est tout à fait attachant et sympathique, que tout le monde aime bien dans la famille, il est certainement même très gentil, outre mesure, dans plein de domaines. Il a certainement, les attentions qu'il a pour sa famille, en dehors de cette question-là, sont certainement très vraies et très profondes. Sauf qu'il y a un profond dérèglement chez lui sur sa sexualité, et au lieu d'être attiré par des adultes, il est par des enfants, et donc il va causer du mal autour de lui. Il y a une forme, moi j'aime bien dire qu'il y a une forme de maladie, et de dire du coup à l'enfant, bah, tu vois cette maladie-là, il faut s'en méfier pour le coup, parce qu'elle peut te faire du mal. Donc ça ne veut pas dire que cet être est méchant, ça veut dire qu'il a un problème profond qui peut te causer du mal, et que, bah, qu'il faut du coup le dénoncer.
Mmh. Marianne Sanchez, expliquez justement l'attitude de l'agresseur pédophile. Ça aide aussi à la victime de comprendre ce qui peut se passer.
Alors, à l'âge adulte, c'est sûr que oui. C'est-à-dire qu'on revisite beaucoup les modèles parce que encore à l'âge adulte traîne ce questionnement de pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait qui a déclenché ça chez l'autre, comme s'il y avait quelque chose qui venait de la personne quand elle était enfant. Et je ne sais plus votre question.
La question, c'est de savoir simplement ce que disait un peu Gwenaëlle Boulet, c'est-à-dire que voilà, c'est un homme gentil qui a un gros problème.
Oui, voilà,
est-ce que l'explication, et si tant est qu'on puisse expliquer d'ailleurs les actes pédophiles, expliquer peut-être aussi ce qui s'est passé dans le dérèglement de l'agresseur pédophile, est-ce que ça aide à la compréhension pour la victime?
Un peu plus grand, je pense, que ça peut... Alors, petit, non. Enfin, ils sont pas
c'est
assez...
C'est pas son problème.
Non, ils sont pas assez encore pour comprendre ce genre de... Mais après, parler de maladie à partir d'un enfant de 6-7 ans... Nous, généralement, on essaye de pas parler des auteurs. On parle des faits qui sont interdits, en fait. Parce qu'ils ont tellement de conflits de loyauté par rapport aux auteurs qu'on rentre pas dans le débat de est-ce qu'il est gentil, pas gentil. Ce qui est pourtant très important. Hein. Enfin, vraiment,
en tout cas, c'est
super que ça puisse être fait. Après, c'est vrai qu'en thérapie... Même pour plein de formes de violence sociale à l'âge adulte, on revient toujours au fait que ça, c'est interdit. Et après, effectivement, il y a des enfants et des adultes qui questionnent sur mais comment ça... Et là, on rentre dans l'explication de ce phénomène qu'est la pédophilie, et vous venez de le suggérer, on ne sait pas, en fait, exactement. Mmh. Il y a des théories, plein de théories diverses et variées sur est-ce que c'est une maladie, pas une maladie, un trouble de la personnalité, enfin, il y a plein de...
Une addiction...
Voilà, il y a plein de façons de le modéliser. Ce dont on est sûr à 100%, c'est que ça cause des dégâts dans l'enfance et après... À l'âge adulte, il y a beaucoup de conséquences, notamment dans les relations interpersonnelles, ce qui touche à peu près tout. Donc vous vous retrouvez vraiment embêté dans vos relations avec les autres, que ce soit dans le couple, dans la famille, au travail. Il y a aussi des fois effectivement des comportements autodestructeurs. Il peut y avoir des dépressions, plein de manifestations.
On comprend bien la priorité des priorités, c'est l'enfant.
Oui.
L'autre priorité, c'est la famille. Et quand justement l'auteur est de la famille... Comment vous faites?
On fait au cas par cas, en fait.
Voilà.
Parce que quand l'auteur est dans la famille, là, on prend chaque famille.
Il faut au moins qu'il soit conscient de la
situation. Regarde, oui. Mais on regarde, alors nous, ils ont déjà porté plainte. Donc, si vous voulez, on n'a pas le travail avant à faire de, entre guillemets, de les sensibiliser ou d'essayer de voir comment ils pourraient se décider par rapport à ça. Par contre, on gère le séisme familial total que ça provoque avec les camps, les parties qui défendent l'auteur présumé, les parties qui défendent pas l'auteur présumé, tous les vieux dossiers de famille qui ressortent.
C'est-à-dire
que ça remobilise en fait tous les conflits familiaux, anciens, même qui n'ont rien à voir, les rancœurs, enfin tout ce qui n'est pas très beau dans la famille en fait. Enfin, tout ressort en fait à cette occasion-là. Enfin, moi j'ai plein de mères qui, je pense à une, mais d'autres, hein, où la révélation de leur enfant a été problématique parce qu'elles avaient déjà une position particulière dans la famille et que le fait que l'enfant ait été agressé, ça venait encore dire quelque chose de elle en tant que pas bonne personne. Enfin, il y a y a plein de situations comme ça. Donc là, on prend au cas par cas, on évalue le séisme. Et moi, ce que je fais avec les parents, en tout cas, c'est qu'on les aide beaucoup à se positionner. Ce à quoi j'ai affaire aussi régulièrement, c'est des parents qui ont eux-mêmes des antécédents d'agression sexuelle dans l'enfance. Je veux pas donner de chiffres parce que je les ai pas et que je le vois juste dans la consultation, mais j'ai très régulièrement souvent des mères qui me disent, depuis ça, voilà, ce que j'ai en tête, c'est ça qui s'est passé dans mon enfance, j'en ai jamais parlé, et depuis que ma fille ou mon fils a dit ça, c'est une catastrophe, quoi. Et le traumatisme parental, c'est soit le réveil de traumas anciens, soit même sans avoir été violenté sexuellement soi-même, le fait de pas avoir été protégé par sa famille pour X ou Y raison, et où ça revient. Mais moi non plus, enfin, je reproduis quelque chose, j'ai pas pu. Alors qu'il y a quand même un certain nombre de cas où vraiment les parents ne pouvaient pas, enfin, on dit des fois, oui, non, mais ils savaient, mais il y a le déni. Il y a ce genre de dynamique-là. Il y a aussi des situations, je vous assure, hein.
De blocage.
Mais ça se voit. Mais vraiment, c'est fait de telle sorte à ce que ça ne soit pas perçu. Donc, bon.
Emmanuel Lucas, vous avez recueilli le témoignage de Louise et Jeanne, des mères d'enfants qui ont été agressées. Là aussi, il faut du temps. On sent chez les deux mères que vous avez rencontrées beaucoup de temps pour réaliser ce qui se passe et après ne pas savoir vraiment comment faire.
Bah, c'est sûr qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour ces drames-là qui sont inconcevables. C'est vraiment un séisme. C'est une vie qui vole en éclats quand même, quelque part, parce que évidemment c'est l'enfant la victime, mais il faut l'accompagner et c'est une lourde tâche. C'est pas évident de savoir comment s'y prendre. Ça dépend tellement des situations aussi, mais par exemple Louise, elle dans sa famille, sa fille ne lui a, c'est sa fille qui est victime et elle ne lui a jamais parlé réellement. Donc elle reste avec un flou sur ce qui s'est passé. Une situation particulièrement douloureuse pour elle parce que ça met en cause son fils. C'est un cas d'inceste entre frère et sœur, avec inceste subi évidemment de la part du frère sur la sœur. Mais pour autant, elle reste avec des millions de questions et il lui faut naviguer comme ça à essayer de sauver sa fille qui qu'elle sent aller très mal, mais en même temps comme rien n'est dit réellement clairement, c'est très compliqué. Donc elle veut pas être trop intrusive non plus, elle ne veut pas, elle essaie de tenir tout ça à main nue. Et c'est une tâche qui est assez écrasante. Elle le fait, je crois, d'une certaine façon remarquablement bien. Et en même temps, il faudrait aussi peut-être demander de l'aide. Et c'est pas évident de demander de l'aide parce qu'on ne sait pas toujours.
On est déjà dans un conflit de loyauté.
Et voilà, c'est pas évident.
Et après faire rentrer une tierce personne, c'est compliqué.
C'est pas évident. Et c'est pour ça que c'est très important des lieux comme les unités médico-judiciaires. Alors là, je sais bien que c'est après la plainte, mais c'est très important qu'il y ait des lieux comme ça où les gens, un peu ressources, où les familles puissent se prendre des conseils. Et il faut rappeler d'ailleurs que le 119, qui est le numéro de téléphone national, prodigue des conseils.
Ce n'est pas forcément que pour les victimes.
Ce n'est pas que pour les victimes et c'est pas non plus directement pour déclencher un tonnerre judiciaire. Vous voyez, il y a aussi un côté quand on a un doute, quand on est très mal à l'aise avec une situation, etc. Eh bien là, on trouve aussi une oreille qui permet de peut-être juste de trouver des solutions pour aider à discerner ce qui se passe réellement.
Marianne Sanchez, le 119, ça marche, c'est vraiment un système d'alerte précieux.
Alors oui, le 119, c'est très important, ça marche très bien. Enfin, ça peut être très impressionnant de déclencher le tonnerre judiciaire, ça vient d'être dit, donc ça permet d'avoir une écoute par des intervenants spécialisés. Surtout que les enfants, ils vont pas vous dire, voilà, il s'est passé ça, j'ai été violée par telle personne.
Très souvent,
c'est une espèce de convergence de signaux avec des mots, dit une fois, puis dit une autre fois, mais dans un certain contexte, et puis on sait pas trop. Donc souvent, c'est plutôt des situations de doute ou de confusion. Donc vraiment, le 119, moindre doute, c'est confidentiel. Donc pourquoi ne pas
La victime, pour les parents aussi, Gwenaëlle Boulay, ou quand on sait que le petit copain de ses enfants a peut-être des problèmes, j'allais dire, c'est difficile parce qu'on n'est pas dans la dénonciation, mais peut-être une veille importante.
Non, mais oui, je crois qu'il faut changer son regard, dire qu'il n'y a absolument pas de dénonciation là-dedans, il y a de la protection, de l'envie de protéger globalement. Et j'ai envie de dire, vraiment, le conseil, c'est au moindre doute. C'est-à-dire que eux, le 119, sont là pour nous dire vous avez raison de douter, ou peut-être ouvrez l'œil là-dessus, ou peut-être chercher tel signe ou autre. Mais je crois que trop souvent et trop longtemps, que ce soit par rapport aux violences même plus générales faites aux enfants, que ce soit
oui,
dans le voisinage,
le 119, c'est pour toutes les violences,
on entend des choses et puis on ne sait pas, on se dit oh finalement c'est la vie intime, c'est la vie des gens. Non, je crois qu'on a une responsabilité collective en tant que parents, éducateurs. Là, moi, c'est vrai qu'avec ce livret, on rêve effectivement d'une grande campagne nationale au niveau de l'éducation nationale, au niveau des écoles, que les enseignants soient peut-être plus formés à repérer des choses dans leur classe, parce que bon, les chiffres qui circulent, on les connaît pas, mais ça veut dire que ces enfants, ils sont quelque part, ils sont forcément à l'école à un moment donné.
Normalement scolarisés.
Voilà, et donc ça veut dire que peut-être qu'il y aurait des signaux qui pourraient se repérer plus facilement si les enseignants, les surveillants, les animateurs étaient formés. Donc je crois qu'il faut qu'on ait une responsabilité générale dans la communauté éducative et parentale, adulte, à avoir sur ce sujet.
Voilà, sans paniquer pour autant.
Non, et de rappeler que ça touche tout le monde, tous les milieux sociaux. Les garçons, les filles, ça je crois que c'est important. On a parfois tendance à se dire que ça se joue peut-être dans des catégories socio-professionnelles loin des nôtres. Non, ça se passe dans toutes les catégories socio-professionnelles. Et voilà, donc je pense qu'il faut avoir une attention collective.
Même si, sur ce plateau, les trois invités sont des femmes aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que les hommes sont moins sensibles à la question, moins à l'aise pour en parler? Parce que c'est vrai que les agresseurs sont plutôt des hommes, Marianne Sanchez.
Une très grande majorité des hommes, on dit 9 sur 10, mais je pense que c'est même un petit peu plus que ça. Mmh. Je dis pas que les femmes sont exemptes. Les femmes, c'est d'autres problématiques. C'est souvent des climats, éventuellement, des choses qui sont aussi tout à fait condamnables et à signaler. Mais très souvent, d'ailleurs, il faut le dire aussi aux enfants, je pense, quand on commence à leur expliquer vraiment le phénomène, le plus souvent, c'est quelqu'un qu'on connaît. Le plus souvent, c'est un homme. Ça veut pas dire qu'il faut pas se méfier des inconnus. Moi, j'ai toujours entendu quand j'étais petite, méfie-toi des inconnus, ne parle pas à un inconnu, n'accepte pas un bon des inconnus, ce qui est une prévention complètement non pertinente. Mais qui elle mérite aussi d'être maintenue encore. Mais c'est vrai que c'est pas le
Ceci dit, même si vous êtes toutes les trois sur le plateau, quand il y a des démarches, notamment familiales, les pères sont présents.
Alors, je vais être honnête.
Ils sont.
Moi, la consultation ouverte
pour ceux qui
tous
ne
les parents.
Pour ceux qui ne sont pas coupables de l'agression. Hein,
bien sûr. Ah oui.
D'accord,
alors, de toute façon, sinon, ils ne sont pas conviés dans cet espace-là parce qu'on est obligé de bien dissocier.
Évidemment.
Il y a des lieux de prise en charge, heureusement, pour les auteurs, mais on ne peut pas les mettre au même endroit. C'est logique. Les pères viennent un petit peu moins que les mères. Des fois, ils viennent à un rendez-vous, puis après, je revois de nouveau madame toute seule, ou alors d'emblée, madame arrive en me disant, j'ai essayé que monsieur vienne, mais il est complet. Alors, ça veut pas dire qu'il souffre pas, hein. Ce qu'on me décrit, c'est souvent très lourd, mais c'est souvent, alors, chez les pères, voilà, de pas avoir pu protéger, c'est encore un autre impact émotionnel, et puis de demander de l'aide à quelqu'un de l'extérieur de la famille, je pense qu'il y a encore peut-être certaines différences, même s'il faut surtout pas généraliser, j'ai plein de pères qui ont été suivis.
Voilà. Donc tous les parents sont concernés. On en parle après la musique.
You tell me it gets better. It gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know? What do you know? Tell me how the hell could you know? Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move on. Tell me how the hell could you die?
Gaga qui chantait en 2015 cette chanson aussi très, très explicite sur les violences que peuvent subir les femmes et les enfants. Enfants agressés, on en parle aujourd'hui. Comment prévenir avec Gwenaëlle Boulay, Emmanuel Lucas et Marianne Sanchez.
Grand angle, Christophe Hénin.
Comment prévenir, Gwenaëlle Boulay, c'est vraiment cette démarche importante que vous faites à travers le livret qui est aussi soutenu et en partenariat avec avec beaucoup d'associations, avec le soutien notamment des défenseurs des droits de l'enfant. On retrouve l'UCPA, les Scouts et Guides de France, l'UNICEF et d'autres, les Apprentis d'Auteuil. C'est véritablement une cause que tout le monde dont tout le monde a pris conscience maintenant.
Oui, et puis je sais pas, je trouve en tout cas qu'il y a eu une très très belle convergence autour de ce projet, de ce livret. Nous, ça faisait longtemps qu'on avait envie de repartir sur une cause. Ça s'est beaucoup aussi greffé autour du projet de France Télévisions et de ce documentaire qu'il faut vraiment voir le 20 novembre. Et c'est vrai qu'on est un peu parti avec l'envie de faire cette prévention et on a réussi, on était content d'avoir réussi à rassembler autant d'associations, à fédérer autant d'associations. Je sais que le milieu associatif est pas toujours facile. Chacun a ses propres combats, ses propres terrains de combat. Mais là, on était vraiment content de pouvoir rassembler tout ce monde-là et de porter cette parole pour peut-être tenter de briser un petit peu le tabou, justement, autour de cette question.
C'est une question du respect. Là aussi, il y a une date anniversaire des droits de l'enfant.
Oui, tout à fait. Le 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Ouais.
Voilà. C'est aussi cette question qui se pose de l'autorité familiale. On l'a vu, puisque ça se passe aussi parfois dans le cadre familial. L'autorité, on en entend parler aussi au sein de l'Église, l'autorité du prêtre, de l'enseignant, de l'entraîneur de sport, Emmanuel Lucas. C'est toujours ces questions-là qui se posent, une forme d'abus de pouvoir.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est particulièrement compliqué pour les victimes, par exemple, de pédophilie dans l'Église, parce que la figure du prêtre, c'est une figure normalement qui inspire le respect dans les familles concernées, en tout cas. Enfin, c'est pas du tout simple pour un enfant de remettre en cause un prêtre. Donc c'est sûr que là, les conflits de loyauté dont on parlait auparavant sont particulièrement vifs.
Mmh. Marianne Sanchez, comment on accompagne des victimes pour qu'elles retrouvent confiance, par exemple dans leur enseignant, si ça s'est passé dans le cadre scolaire, par exemple dans la famille, si ça s'est passé avec un proche?
Alors, le problème de ces traumatismes-là, c'est que ce sont aussi des traumatismes relationnels, en plus d'être des traumatismes sexuels à proprement parler. Donc l'idée, c'est de réparer aussi la relation. Donc on les aide en travaillant leur relation avec les autres, en essayant de les aider de nouveau à discriminer, parce qu'il y a des mécanismes où on généralise, c'est-à-dire que une fois telle personne qui est une figure d'autorité m'a fait du mal, donc toutes les figures d'autorité vont me faire du mal. Ce qu'on appelle les généralisations traumatiques, c'est du jargon, mais on essaye de travailler ça. Ce qui est très réparateur au-delà de la thérapie, bon, j'insiste quand même que la thérapie c'est très réparateur, parce que je prêche, mais c'est très important, vraiment, faut venir en thérapie, voilà, parce que la relation thérapeutique est déjà très aidante et saine en fait. Donc ça aide, mais ce qui répare beaucoup, c'est les relations saines et positives, soit de soutien immédiat, c'est pour ça que la réaction familiale est déterminante, soit après dans la vie d'amour et de soutien et de construire sa vie dans des relations positives qui sont complètement désengagées de notions de manipulation, d'abus de pouvoir ou d'abus de l'autre, quoi. Une victime qui arrive à l'âge adulte, moi je regarde toujours comment ça se passe au niveau de leur famille, est-ce qu'elles sont avec des gens bienveillants. On sait que déjà les personnes qui sont allées vers ça, qui ont recherché les gens bienveillants après plus tard à l'adolescence ou à l'âge adulte, c'est qu'il y a un bon chemin qui a été fait. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais ça veut dire qu'elles ont choisi des personnes qui les protègent, en fait, et qui sont un peu à risque de leur faire du mal.
Ça veut dire que peut-être les victimes, il faut surtout ne pas les mettre sous cloche,
mais plutôt
les remettre dans une vie sociale.
Tout à fait. Alors, il faut une période de sous-cloche, comme vous dites à très juste titre, parce que les victimes, au début, surtout quand elles parlent, c'est fragilisé, c'est très sensible, elles ont besoin d'être reconnues. Je reviens pas sur l'Église, mais c'est aussi le problème, c'est que des fois, il y a un manque de reconnaissance, en fait, mais même, pareil, fait, c'est partout pareil. Dès qu'il y a une figure d'autorité et qu'il y a des gens qui essayent de nier un peu ce qui se passe, bah, du coup, il y a un problème de reconnaissance. Au début, il faut cette cloche de reconnaissance. Il faut qu'il y ait un afflux comme ça de soutien familial, social, personnel qui permette à la victime de se sentir reconnue en tant que telle. Par contre, après, il faut se réapproprier sa vie. Il faut sortir du statut de victime. Alors, il y a des personnes qui subliment et qui vont faire des actions, justement, positives par rapport à ces thématiques-là. Il y en a d'autres qui vont, essayer de se dire qu'ils sont quand même responsables maintenant de la suite de leur vie. Parce que le pire, c'est de continuer à subir sa vie, en fait, hein, et de continuer à subir d'autres problématiques dans sa vie.
D'où l'importance des témoignages de victimes anciennes. Emmanuel Lucas, notamment sur cette journée du 20 novembre, hein, qui va mobiliser beaucoup de médias. Il y aura sur France Télévisions, pour ne pas le citer, ou France Inter, des reportages avec justement des témoignages.
Tout à fait. Bah, notamment, sur France Télévisions, un très beau documentaire d'Éric Guéret qui s'appelle « L'enfance abusée ». Et qui donne la parole à une dizaine d'anciennes victimes devenues adultes et qui racontent comme ça de façon très très sobre leur parcours, à la fois ce qu'ils ont subi et à la fois leur lente reconstruction. C'est extrêmement touchant et c'est vraiment un documentaire que j'incite tout le monde à regarder parce que c'est quelque chose, on n'a pas forcément envie d'entendre et il faut entendre. Il faut vraiment entendre. Parce que ce sont ces victimes qui en parlent le mieux. Et ce qu'elles ont à nous dire est édifiant. Et on se rend compte à les entendre qu'on peut pas du tout en rester là. Il faut prendre la mesure du drame vécu et tout faire pour que ça se reproduise le moins possible.
Quel que soit l'âge, Marianne Sanchez.
C'est jamais trop tard. Oui. Après, c'est mieux plus c'est pris tôt, c'est sûr.
Évidemment.
Les enfants qui ont eu la chance d'être accompagnés tout de suite, c'est sûr que c'est un facteur très favorable. Après, c'est jamais trop tard. Et moi, j'ai des personnes, même dans ma pratique par ailleurs, qui viennent à 40, 50 ans, disant que là, c'est plus possible et que...
Il s'est passé quelque
chose. Ils
ne
peuvent plus continuer à vivre comme ça. Une dame qui avait des soucis sexuels à l'âge adulte, parce qu'on a beaucoup après de troubles sexuels à l'âge adulte, c'est-à-dire d'évitement ou de douleurs, de choses qui se sont somatisées en fait un peu, ou de peur en fait, d'évitement. Et en fait, sauf que cette dame, elle avait fini enfin par rencontrer la personne qu'il lui fallait et que ça devenait un problème. Et qu'elle dit, je vais quand même pas en plus.
Elle voulait se libérer.
Je vais pas
de
perdre
ça.
Cette personne à cause de ça, c'est pas possible. Mais il y a plein comme ça de développements différents et c'est jamais trop tard pour chercher de l'aide. Et plus on met du tiers là-dedans, moins on a honte. Parce qu'on a enfin quelqu'un qui va dire qu'il n'y a pas à avoir honte.
C'est de la prévention, c'est important. Gwenaëlle Boulay, peut-être que ça peut aussi prévenir, j'allais dire, les prédateurs, que maintenant tout le monde est au courant.
On aimerait bien.
Bien sûr. Non, mais je veux dire, ça peut être si peut-être quand même ça, savoir que maintenant... tout est en place pour accompagner les victimes et que les victimes sont prévenues aussi.
Oui, et puis vous disiez qu'il est jamais trop tard pour entrer en thérapie et puis il est jamais trop tôt à l'inverse pour en parler. On a quelques parents qui nous disent mais vous vous rendez pas compte, on va leur parler de ça alors qu'ils n'ont même pas entendu parler de sexualité. Et je dis stop, en fait il s'agit pas de sexualité, il s'agit de violence. Et c'est très important de se dire qu'un on appelle ça des violences sexuelles parce que ça touche cette partie intime.
C'est une forme de violence.
Et c'est une forme de violence. Mais il s'agit pas de parler, il faut les décorréler complètement d'une quelconque entrée dans la sexualité et encore plus dans l'amour, etc. On est là sur des questions de violence, tout comme on traite le harcèlement scolaire en prévention, par exemple, ou en accompagnement. On va traiter
ou le
ça.
Terrorisme que vous avez
ou
aussi
le terrorisme
traité
qu'on a traité. Il faut le traiter comme ça. Il faut pas se dire, je vais attendre, parce que la plupart des victimes, elles avaient pas entendu parler de sexualité hein, quand elles ont déjà été victimes. Donc, je pense qu'il faut les décorréler, se dire qu'il n'est jamais trop tôt pour en parler. Après, il faut pas s'empêcher de dormir toutes les nuits pour ça. Il faut que ça rentre dans l'éducation, j'allais dire, petit à petit. Et je pense vraiment que là, on offre un outil aux parents pour en faire un outil d'éducation parmi d'autres dans leur quotidien. Et peut-être qu'ils vont le laisser de côté pour l'instant et puis le sortir quand ils l'auront un petit peu digéré et qu'ils auront envie d'en parler avec les enfants.
Les parents, peut-être les enseignants aussi.
Les enseignants, les éducateurs. On sait que là, effectivement, l'UCPA, les scouts et guides de France, etc. Les jeunes qui passent le BAFA, s'il peut y avoir des formations intégrées au niveau du BAFA.
Comment on peut avoir le livret sur Internet?
Alors sur Internet, il est sur le site Bayard Jeunesse. Et si vous allez sur le site Bayard Jeunesse, il est assez haut, donc vous allez le trouver directement.
On va pouvoir le trouver assez facilement. Ouais. Et puis donc le 20 novembre, un grand dossier dans la Croix.
Oui, où on revient justement sur une grande explication sur pourquoi ces violences-là sont si destructrices. Voilà, et nous aurons probablement la ministre Agnès Buzyn dans nos pages.
Voilà, donc pour parler de toutes ces choses, merci à toutes les trois, Gwenaëlle Boulay, Emmanuel Lucas et Marianne Sanchez, pour cette heure sur un sujet difficile mais important. Le site du Centre de victimologie pour mineurs est aussi très bien fait.
Oui, venez de voir.
Voilà, cvm-mineur au pluriel.org. Qu'on soit victime, proche ou témoin, il y a toutes les démarches qui sont bien expliquées. Merci à Pierre Samanos qui était à la régie. Grand temps que c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, émission spéciale à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. Je recevrai notamment Julien Genevoix, le petit-fils de Maurice Genevoix, dont Emmanuel Macron a annoncé ce mardi matin l'entrée au Panthéon. Grand temps que c'est fini. À la semaine prochaine.